Football Magazine vous est présenté par Algérie Télécom. Algérie Télécom, toujours plus proche.
La chaîne 3 de la radio algérienne vous propose
Football Magazine.
Du foot, plein les oreilles.
Madame, monsieur, bonjour. 11h03 sur Alger Chaîne 3, heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous hebdomadaire Football Magazine, avec aujourd'hui bien évidemment un retour sur la dernière victoire de l'équipe nationale. Une équipe nationale qui a battu pour la première fois l'Arabie Saoudite. C'était à Jeddah, c'était mardi dernier, 2-0. Un résultat rassurant avant la Coupe d'Afrique des Nations qui débutera au mois de décembre. On aura avec nous Mourad Wardi qui suit tous les matchs de l'équipe nationale. On reviendra en détail dans l'analyse. Les réactions également, notamment de l'homme du match qui aura été Hadj Moussa. On parlera des barrages concernant la zone Afrique pour le mondial. Nassima Djaout reviendra et nous présentera la République démocratique du Congo. Et on espère que la RDC va se qualifier pour la phase finale de la Coupe du Monde. Ça nous donnera 10 pays africains. Léa Prim ne rassure pas après les deux matchs contre l'Égypte. Alors où va Majid Bougra? Dans quelles conditions va se présenter notre équipe nationale qui défendra son titre au Qatar? On tentera d'avoir la réponse avec Ali Hamouche. Et puis les compétitions africaines. Le Mouloudia d'Alger qui se trouve en Tanzanie, au Rwanda. La JS Kabylie, ça sera à l'affiche contre le Ahly du Caire pour la plus prestigieuse des compétitions, la Champions League africaine. L'USMA et le CRB pour la Coupe de la Confédération africaine de football. Les deux équipes jouant à Alger. L'équipe en forme. Eh bien, tout le monde avait enterré cette équipe en se disant « ça y est, c'est fini ». Ils ont rétrogradé. Et voilà qu'aujourd'hui, le Paradou enregistre une quatrième victoire de suite. Le Paradou s'extirpe de la zone des relégables. On est ensemble jusqu'à midi à la réalisation Foued Hamadi. On va débuter avec l'équipe nationale de football qui, je le rappelle, a disputé deux rencontres. Le Zimbabwe. Mais le Zimbabwe, on avait dit non, mais c'est un adversaire tout à fait modeste. Il y avait ce match contre l'Arabie Saoudite. Une équipe qui ne nous a jamais réussi. Mais voilà qu'on a vu une équipe disciplinée, une en première mi-temps, une équipe qui a su eh bien défendre en bloc sur cette première mi-temps, notamment durant les 20 premières minutes. Et puis qui en seconde mi-temps eh bien, a su prendre la mesure de son adversaire pour s'imposer 2-0. Avec l'homme du match, ça a été Hadj Moussa qui a provoqué le penalty et qui à la base au départ, c'est lui qui provoque, qui ramène ce deuxième but en partant balle au pied avec sa qualité technique, il a fait la différence. Le gardien qui s'interpose et Belrali qui reprend, qui a suivi, qui a accompagné l'action jusqu'au bout pour marquer ce deuxième but. Un résultat eh bien, qui permet à notre équipe nationale d'engranger de la confiance, de se rassurer avant la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, on va revenir avec notre spécialiste, je l'avais annoncé, consultant, également qui suit l'équipe nationale, c'est Mourad Wardi. Mourad Wardi, bonjour.
Bonjour, Mohamed, à vous et à tous nos chers auditeurs de la chaîne.
Mourad Wardi, vous restez avec nous. Tout d'abord, on va écouter ensemble la déclaration de l'entraîneur Petkovic après la victoire du 11 national face à l'Arabie Saoudite. Et je le dis, pour la première fois dans l'histoire des confrontations entre l'Algérie et l'Arabie Saoudite.
La première chose que je veux dire, c'est de remercier tous mes joueurs et tout le staff qui est avec moi.
Perché oggi non era solo una vittoria.
Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement une victoire, mais c'est une victoire avec la conviction. Clairement, on a joué contre un adversaire qui a de la qualité, il nous a posé aussi des problèmes.
Complimenti, ho visto adesso due volte.
Je veux me féliciter avec l'équipe de l'Arabie Saoudite, je l'ai vu auparavant de la Côte d'Ivoire et aujourd'hui c'est vraiment une très bonne équipe. Débuter le match comme on voulait le débuter, on a tout de suite mis de la pression, on a mis vraiment beaucoup de pression aussi dans le camp adverse.
Primo tempo era abbastanza.
La première mi-temps a été assez équilibrée. On a quand même eu une paire d'occasions. Et ce qui est très important, pendant toute la deuxième mi-temps, on a vraiment cherché de tout le temps pousser. On n'a rien lâché jusqu'à la 90e. Ce qu'on a bien fait, on a réussi d'éviter que l'équipe adverse puisse, avec un jeu vertical, nous mettre en difficulté.
Et questo è bel segnale di positività.
Et ça, c'est un très bon signal qui est donné à toute l'équipe parce que tous les joueurs qui viennent sont très bien accueillis et ça donne tout de suite un bon équilibre, un très bon esprit dans le groupe.
Très bon esprit dans le groupe, une équipe qui a su justement faire déjouer son adversaire, qui a su mettre de la pression sur l'équipe adverse, qui a su contenir cet adversaire dans les moments forts de l'Arabie Saoudite, même si, je le dirai, sur la deuxième mi-temps, une seule fois, le gardien Alexis Guendouz a été inquiété. Mourad Douardi, vous avez vu le match, vous rejoignez l'analyse de l'entraîneur Petkovic.
Ah, sûrement, hein, car le deuxième match a été un match, pour moi, un match référence, hein, contre une équipe.
Vous avez employé le terme juste. Le match référence peut-être que cherchait Petkovic.
Oui, parce que il s'est mis dans une organisation lors du match contre le Zimbabwe, avec une défense à 3, un milieu à 5, une attaque à 2, et tout de suite après, et on s'est posé la question lors de ma dernière intervention avec vous, Mohamed Djibour, on s'est dit que peut-être le grand casse-tête, c'était ce milieu qui faisait un peu beaucoup de questionnements dans la tête de tout le monde. Ensuite, il est revenu encore une fois avec un milieu à 3 et avec Hedj Moussa comme organisateur. Hein. On a vu beaucoup de choses. Donc, je crois qu'il est revenu à son habituel système de jeu parce qu'il a vu que quelque part, c'est un système qui lui a donné raison dans cette fluidité d'équipe, même si au départ, on n'a pas senti une équipe qui allait répondre, mais au fur et à mesure du match, l'équipe s'est bien imposée, elle s'est mise en place convenablement, et elle a pratiquement pendant toute l'heure de jeu, je dirais pendant pratiquement une heure de jeu, elle a été dominante sur tous les plans.
Alors je dis, moi j'ai trouvé que notre équipe nationale, et vous avez raison de le dire, il est revenu à un système de jeu avec 4 défenseurs, 2 milieux, Zarouri et Benasser, avec dans une position un peu plus avancée, on avait Awar, et puis à droite, Mahrez, alors à gauche, Hedj Moussa, mais ça a permuté, ça a beaucoup, parce que Mahrez dans le jeu, quand on était en possession, il rentrait dans le cœur du jeu, et avec notre attaquant, je le rappelle, Bounjah, qui était à la pointe de l'attaque. Donc il est revenu, vous le dites, à un système habituel, mais ça a beaucoup déjoué, déstabilisé. On a vu avec Mahrez qui est rentré dans le cœur du jeu, Ait Nouri qui à un moment également rentré, Benasser qui, je le retrouve, est revenu à son meilleur niveau. Alors je vous le dis, on a vu une équipe disciplinée sur ce match-là, appliquée.
Mais je crois qu'il a été très intelligent. Il a étudié convenablement cette équipe saoudienne. Hein. C'est une équipe sur un plan technique, on peut rien dire. C'est une équipe qui...
Ah, techniquement, ils sont bons.
Ils sont bons. Mais ils sont lents dans la mise en place
Pourtant, Mourad, leur force, hein, parce que j'avais lu, je m'étais renseigné en voyant cette équipe, notamment, on restait sur les matchs, leur force, c'était les transitions. Défense-attaque. Oui. Cette rapidité dans la transition.
Vous m'avez pris de court. Je vous ai dit qu'il a lu bien convenablement cette équipe. Parce qu'au départ, il a coupé un petit peu ces transitions. Il a coupé en mettant en place un dispositif qui allait bloquer un petit peu la construction par derrière et au milieu. Il a commencé au début, ça n'a pas tenu bien, mais au fur et à mesure des minutes, il s'est mis dans une organisation où il a poussé cette équipe saoudienne de jouer une transition longue, c'est-à-dire de derrière vers devant, chose qui n'a pas donné. Donc je crois que...
C'est ce qu'il dit, il dit, on les a empêchés de développer de la verticalité dans le jeu.
Ah oui, donc il a bien fait, et c'est d'où une lenteur dans la construction du jeu des Saoudiens et de Perses de balles qui ont profité à notre équipe nationale par le talent technique de ces joueurs, leur vivacité, leur contenance sur les petits espaces, comment dirais-je, le changement de côté de certains joueurs, ils ont pratiquement déjoué un petit peu le milieu et la défense saoudienne, laissant traîner un ou deux joueurs devant, mais qui n'ont pas fait le poids devant une organisation défensive.
Une animation défensive qui était bonne. Elle était bonne,
oui, elle a été bonne pratiquement
il y a eu certaines erreurs. Il a eu une intervention à faire, Alexis Guendouz, et il l'a faite, cette intervention.
Oui, il l'a faite.
Une seule, il l'a faite.
Il a été impérial, il a été là. Donc, je dirais que l'équipe nationale, elle a été sur tous les plans. Mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, même avec des absences de taille au niveau de cette équipe nationale, je dirais qu'il y a eu du répondant, il y a eu du sérieux, il y a eu de la discipline, il y a eu de la cohérence dans le jeu pendant pratiquement tout le temps du match.
Très bien.
Donc le football, c'est comme ça. Le football, c'est une performance pendant tout le contenu de toute la durée du match.
Très bien. Une victoire avant la Coupe d'Afrique des Nations, c'est bon pour le mental, c'est bon pour la dynamique du groupe, c'est bon et ça rassure et ça engrange la confiance.
C'est important, la confiance en football, c'est un atout majeur chez toutes les équipes. Même si vous avez une très grande équipe et que vous n'êtes pas en confiance, vous perdez un petit peu de beaucoup de choses dans ce match. Donc c'est une confiance, mais reste aussi beaucoup de points d'interrogation, hein, parce que, comme vous le savez, des matchs amicaux, oui, ils n'ont pas le même engagement sur un plan mental, mais les matchs officiels, c'est une autre forme, hein, c'est une comptabilisation du
point. Non, c'est différent, c'est complètement différent. C'est soit un match à élimination directe, soit c'est un match avec sous forme de championnat.
Donc c'est... Ça va être peut-être une autre évolution. Mais je crois, au vu de ce qu'on a pu voir sur ces deux matchs, je dirais que l'équipe nationale, elle s'est mise à donner cet espoir que ça peut marcher convenablement lors des joutes africaines prochaines.
Oui.
Donc là... c'est un bon point et c'est rassurant pour notre 11.
Alors, on va écouter un joueur qui a été l'homme du match. C'est lui, c'est Hadj Moussa.
Première mi-temps, on a évalué le jeu de l'adversaire. On était un peu sur le reculoir, ça veut dire qu'on analysait et tout. Et en deuxième mi-temps, alhamdoulilah, on a réussi à prendre le jeu à notre compte. Et alhamdoulilah, ça s'est très bien passé et on a marqué deux buts, alhamdoulilah. Ouais, je suis satisfait de ma performance et c'est grâce à l'équipe aussi. Parce que sans l'équipe, je peux pas jouer comme je joue. Donc je suis très content de moi et surtout de l'équipe, parce que c'est grâce à eux si je fais un bon match aujourd'hui.
Hadj Moussa, sur la performance de Hadj Moussa, Mourad Wardi.
Je dirais que c'est l'un des grands gagnants. Hein. Percutant, ambitieux, il a directement influencé le jeu offensif, provoquant des actions dangereuses. Je dirais qu'il a gagné... Sans Paris,
il a marqué des points.
Même s'il y avait quelques prioritures. Et ces prioritures, je crois, elles ont leur réponse. C'est quelqu'un qui voulait montrer.
Ça fait partie de son jeu. Ça fait partie de son jeu.
Je pense
que l'entraîneur, je ne sais pas si vous êtes mon avis, lui a laissé cette liberté.
Oui, cette liberté, mais il reconnaît qu'il y avait quelques imperfections. Moi, je dirais que c'est des imperfections d'une volonté de vouloir faire valoir sa présence au niveau de l'équipe nationale. Et sur ces deux percussions dangereuses dans la défense...
Ah, c'est lui, il est à la base des deux buts.
Oui, il a été impérial, il a été là, un pénalty, un deuxième but sur un deuxième ballon de Belghali. Je crois que Hadj Moussa, avec... un Amoura aussi qui a cette force de percussion.
Très bien, ça on le sait. Pourquoi je voudrais rester sur Amoura, ça y est, il a sa place en équipe. Mais Hadj Moussa, c'est les joueurs qui arrivent. Moi, je voudrais rester sur des joueurs, par exemple. On a parlé de Hadj Moussa, on a dit l'homme du match. le retour de Bennacer au milieu.
C'est un retour gagnant, je dirais. Hein. Il a confirmé son importance au milieu de terrain de l'équipe nationale. Ramenant, moi pour moi, hein, il a ramené de l'équilibre et de l'intelligence. C'est important, c'est ce qu'on a cherché. On croyait qu'il a été... c'est un joueur peut-être fini, mais je crois, lors de ces deux dernières rencontres, il a montré des prédispositions.
Il a montré qu'il était là
et il a un mental voilà. De fer.
Il revient de loin avec ses blessures.
Il revient de très loin.
Belaïd en défense.
Eh ben, ça.
Il a une intervention décisive. Ce tacle où il est parti mettre le ballon en corner. Moi, je trouve que il a répondu présent.
Maintenant, comment ça va être notre défense centrale?
Ah, ça c'est, aujourd'hui, ah, c'est ça, il faut poser des problèmes à l'entraîneur. Oui. Ah, il faut lui donner, il doit réfléchir.
Ah, il doit réfléchir. Est-ce qu'il va jouer à 2, à 3? Est-ce qu'il va, imposer Blade? Parce que je crois sur les deux matchs, il a été impérial. Avec une défense à 3, il était là. Avec une défense à 4, il était là. Il était là dans la couverture. Vous venez de citer l'action qu'il a. Il a été là dans une action.
Il était bon dans les duels, dans le jeu aérien. Je trouve
dans le marquage, dans la relance. Oui.
Il a marqué des points.
Il a marqué beaucoup de points.
On attendra la liste de Petkovic, notamment pour. Il a donné sa liste élargie, les joueurs, 27 joueurs. C'est un véritable casse-tête pour l'entraîneur. Hein. Véritable casse-tête. Ah, qui va mettre de côté, qui va garder, ça sera tout l'enjeu pour Petkovic lors des prochains jours. Merci Mourad Wardi, je ne l'ai pas dit dans le sommaire, mais je vous retrouverai tout à l'heure pour revenir sur un sujet important. Personne ne va en parler, je dis bien, personne ne va en parler. Il y a comme ça quelques informations qui filtrent, c'est sur le système de compétition. La question fondamentale, à quoi sert un système de compétition? Hier, il y a eu une réunion qui a regroupé le Collège Technique National. Alors, l'un des axes du... Qu'est-ce qu'on a dit? On va changer de système de compétition pour faire des économies et réduire les distances. Est-ce que c'est ça la finalité d'un système? Ça va beaucoup plus loin. Et on reviendra avec vous sur cette question. Merci Mourad Wardi.
Merci.
On vous retrouvera tout à l'heure. On va rester avec les continents africains. On a un représentant qui ira au tournoi intercontinental. C'est la République démocratique du Congo qui s'est qualifiée face au Nigeria qui avait éliminé le Cameroun, Nassima Djaouti, qui a raté de peu cette qualification pour le mondial. Nassima, bonjour.
Bonjour, Mamar. Alors, lors des barrages intercontinentaux, la République démocratique du Congo affrontera le vainqueur du match Nouvelle-Calédonie-Jamaïque au mois de mars prochain. C'est ce qu'a décidé le tirage au sort effectué hier à Zurich. La victoire en finale des barrages continentaux serait synonyme de qualification à la Coupe du Monde. La RDC pourrait disputer une Coupe du Monde 52 ans après sa première et seule participation en Coupe du Monde. C'était en 1974 en Allemagne de l'Ouest, qualifiée une seule fois en Coupe du Monde après avoir gagné justement son deuxième titre continental africain. C'était en Égypte en 1974. Premier titre africain remonte à 1968. C'était en Éthiopie.
Je suis obligé de vous interrompre parce que l'actualité immédiate, c'est la conférence de presse qui se déroule à l'instant même, à l'instant où je vous parle, à l'office du complexe olympique, conférence de presse du CRB sur place, Lotfi Benidir.
Oui, bonjour. Marco, j'ai avec moi la conférence de presse, hein, vient tout juste de s'achever. J'ai avec moi, avant de s'étaler sur ce qu'a dit Ramovic, j'ai avec moi le capitaine du Shabab Riyadi de Blouzad, Abdallah Benrid. Abdallah, on l'a entendu durant la conférence. Première chose, c'est que vous allez jouer un adversaire de qualité, même s'il n'est pas habitué à jouer les compétitions africaines.
Oui, c'est vrai, c'est la première fois qu'il va participer aux compétitions africaines. Mais quand même, ils ont des très bons joueurs. Il y avait 3 ou 4 joueurs qui étaient au Young Africain et deux joueurs qui jouent déjà à Sec Mimosa. Mais nous, on a bien préparé ce match. On sait très bien que c'est un match difficile, mais on est bien concentré pour le match de demain.
Match difficile, on sait également que pour espérer se qualifier, on dit souvent qu'il faut assurer le maximum de points à domicile. Demain, ce sera premier objectif, c'est d'assurer les 3 points, peu importe peut-être la manière.
Oui, c'est normal. C'est notre premier objectif. C'est le premier match chez nous. Devant notre supporter, on est obligé de ramener les trois points, Inch'Allah.
Et par rapport justement à le coach abordé lors de la conférence de presse, le manque d'efficacité offensive, comment justement comptez-vous combler peut-être ce manque d'efficacité en attaque?
Non, pour nous, c'est juste, on va rectifier ça sur les entraînements, mais ce n'est pas un grand problème. Le plus important, c'est les trois points. On s'en fout qui va marquer, c'est un attaquant, un défenseur ou un milieu de terrain. C'est l'objectif de l'équipe, c'est de sortir gagnant.
Ce qui nous a attiré lors de la conférence de presse, vous avez cité les supporters, Abdallah, l'appui du public, il est si important demain dans un match pareil.
Ben oui, c'est normal, c'est notre numéro 12 qui nous aide toujours. Ils étaient toujours avec nous, malgré la déception qu'on a fait au début de saison, mais ils étaient toujours avec nous. Ils étaient toujours derrière les joueurs. Mais c'est à nous de le faire demain, Inch'Allah.
Vous avez également abordé les objectifs, aller le plus loin possible. C'est, on va dire, c'est une compétition de la CAF. L'entraîneur également a abordé, a signalé que ça reste également une compétition avec des équipes de qualité.
C'est normal, il y a des très bonnes équipes à la CAF. Il y a les Zamalek, il y a Louis Dead aussi. Il ne faut pas oublier Louis Dead, ils ont des très bons joueurs. Mais nous, c'est le plus important, c'est qu'on a une famille, on a un groupe. Peut-être ça va nous aider plus tard, Inch'Allah.
Inch'Allah, bon courage pour la suite.
Attendez, alors, est-ce qu'on peut lui poser une question?
Allez, alors, il y a Mohamed Jabour qui veut vous poser une question.
Ouais.
Raouf, bonjour.
Bonjour.
Raouf, question. Est-ce que la pelouse, elle ne vous inquiète pas, la pelouse du Nelson Mandela?
On ne sait pas, on l'a pas vu encore, mais sur le dernier match qu'on a joué, c'était un peu... On a fait mal à jouer déjà notre style de jeu, mais on n'a pas le choix, on va essayer de...
Ouais, c'est sûr, c'est pour ça que je vous pose cette question, parce que vous n'avez pas le choix. Et puis deuxièmement, c'est un entraîneur qui connaît bien le CRB, Gamondi en face.
Ouais, on le connaît déjà, on a joué déjà contre lui, on sait déjà comment il va faire, comment il va jouer, mais le plus important c'est de gagner les trois points, Inch'Allah, demain.
C'est tout le mal qu'on vous souhaite et bon vent. Merci Raouf, merci Lotfi Benidia.
Merci beaucoup.
Merci,
Mohamed Jabour, si vous permettez également, Saad Ramovic, l'entraîneur du Chabab de Belouzeb, a abordé trois principaux aspects lors de sa conférence de presse. C'est que l'adversaire, Singida Black Star, il a dit que c'est un adversaire qu'on va respecter, même si c'est une équipe qui n'est pas habituée à des joueurs qui évoluent au sein de l'ASEC Mimosa et de Young Africains. Également, il a estimé qu'il n'y avait pas une préparation spéciale durant la semaine. Et puis, il a parlé également du manque d'efficacité offensive. Il a estimé qu'il faisait confiance à ses joueurs également avec des différents dispositifs. Le CRB trouvera les solutions, en tous les cas, il l'espère, dès demain à partir de 20h.
Merci, ça sera en direct sur les ondes d'Alger Chin 3 et vous serez aux commentaires, Lotfi Benidir. Merci d'avoir été avec nous en direct à partir du complexe du stade du 5 juillet. Complexe Mohamed Boudieff. Nassima Djaout, on parlait de cette équipe de la République démocratique du Congo. Juste, titre de rappel, et vous l'avez dit, sa dernière participation en Coupe du Monde, c'était en Allemagne de l'Ouest.
1974.
Très bien, mais à l'époque, ça s'appelait le Zaïre. Voilà, pour les plus jeunes, pour ceux qui ne s'en souviennent pas.
Alors, justement, le tirage au sort, je le disais, donnait comme adversaire le vainqueur du match, Nouvelle-Calédonie-Jamaïque, et le journaliste Joyce Mukaya, donc qui est journaliste à l'Innov TV, directeur général de Gazan Plus Africa, donc revient sur ce tirage au sort. Et lui, eh bien, il préfère jouer la Jamaïque plutôt que la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie est une inconnue, donc pour...
Il y a une grosse attente, très grosse attente. Attente concernant les Congolais attendent justement cette qualification.
Et comment? On va écouter Joyce Mukaya.
D'abord, le peuple congolais est très content depuis la qualification au barrage mondial suite à cette victoire face au Nigeria. La RDC va affronter le vainqueur de la rencontre Jamaïque-Nouvelle-Calédonie. C'est d'ailleurs deux formations que la RDC ne suit pas. Je pense que la RDC voudrait mieux rencontrer la Jamaïque que la Nouvelle-Calédonie, puisque la Nouvelle-Calédonie, c'est une équipe méconnue hein, du sphère du football, alors que la Jamaïque, à partir déjà de son histoire liée à ses légendes, on peut se faire une idée par rapport à son football. La Nouvelle-Calédonie peut être beaucoup plus surprenante que la Jamaïque. Les Congolais, nous préférons rencontrer la Jamaïque, ce qui va séparer la RDC de la Coupe du Monde. Ça ne sera juste que pendant 90 minutes.
Voilà, donc c'était le journaliste Joyce Mukaya. Et donc, on revient sur le parcours justement de cette équipe de la République démocratique du Congo. Le 13 novembre dernier, la République démocratique du Congo, les Léopards, avaient fait sensation en éliminant le Cameroun 1-0 en demi-finale des barrages Zone Afrique. Le Cameroun, 8 participations aux Coupes du Monde, record qui détient le record des pays africains et qui avait atteint même une quart de finale au Mondial 1990 en Italie, une première pour une équipe africaine. Et puis arrive le 16 novembre, la finale des barrages. La RDC récidive et redonne et se donne une seconde chance de disputer les barrages intercontinentaux après avoir sorti le Nigeria. Un but partout à l'issue du temps réglementaire au tir au but 4-3 et la RDC eh bien, élimine également une équipe qui est déjà beaucoup plus participé à la Coupe du Monde que la RDC avec 5 participations. Et justement sur cette qualification, les joueurs étaient vraiment aux anges. On va écouter Michel-Ange Balikwisha, lui qui a été sélectionné pour la première fois et qui, lui, il évolue au Celtic.
Le penalty, j'ai l'habitude d'en tirer, mais là à ce moment-là. Quand j'ai avancé, je me suis vraiment posé la question dans quel bourbier je me suis mis. Parce que là, c'est pas seulement un pénalty de club où tu te dis c'est pas grave. Là, c'est pour toute une nation. C'est soit je dis non au peuple, soit je dis oui, on continue. Et Dieu a fait grâce et je le remercie énormément parce que je peux la mettre comme d'habitude. Donc voilà, aujourd'hui, le peuple est fier et j'espère qu'on va aller participer à cette Coupe du Monde.
Et on va écouter à présent Noah Sadiki qui évolue à Sunderland en Angleterre.
J'attendais ce moment-là. Après, le coach a attendu parce que je pense qu'il avait une idée derrière la tête, celle de faire entrer Tim pour les pénaltys parce que c'est un spécialiste des pénaltys. C'est pour ça que mon temps a été un peu plus tard. Et bon, je l'ai compris quand je l'ai vu. J'ai compris que voilà, c'était pour garder un changement en plus. Donc c'était vraiment fort de sa part. Et pour parler par rapport à mon pénalty, comme c'est une première pour moi, ben, le coach a demandé qui voulait tirer. Et je me suis dit, comme c'est une spécialité à moi, il faut que je ramène aussi cette qualité-là pour pouvoir aider aussi le groupe à pouvoir rêver et au peuple aussi. Et comme je l'ai dit, Dieu merci, je l'ai fait et voilà, je suis fier.
Football Magazine vous est présenté par Algérie Télécom. Algérie Télécom, toujours plus proche.
Et à présent, on va écouter Cédric Bakumbo, donc lui qui évolue au Betis Séville, Real Betis en Espagne, et qui est heureux, qui à un moment donné n'arrivait plus à croire que son équipe avait atteint ce stade de la compétition qui est les barrages intercontinentaux.
Le coach nous a conscientisé sur la chose, l'importance de ce qu'on allait accomplir si on gagnait aujourd'hui. Je pense que tout le monde s'est donné à fond, il n'y avait pas de retenue. Et c'était vraiment en mode qu'on perde un ballon, qu'on fasse d'erreur, c'est pas grave. C'est vraiment aller de l'avant et refaire ce qu'on sait faire parce qu'on est des joueurs talentueux. Et je pense que tout au long de cette campagne, on l'a pas assez montré. Et même le match du Cameroun, je t'ai dit que j'étais un peu déçu. Et aujourd'hui, même si le score était défavorable, j'allais venir devant toi et te dire que je suis vraiment fier de cette nation, vraiment fier de cette équipe parce qu'aujourd'hui, on a produit du jeu. Et c'est des choses sur lesquelles on était beaucoup critiqués.
Non, franchement, je suis content. On va pas se mentir. Aujourd'hui, la meilleure équipe des 4 a gagné. Et la meilleure équipe des 4, c'était la RDC. On l'a démontré sur le terrain. Après cette victoire face au Cameroun, méritée. Cette victoire encore ce soir, on était mené 1-0. C'était pas facile. Victoire méritée. On revient au score et puis on gagne au pénalty. Donc voilà, il faut continuer là-dessus. Maintenant, on n'est toujours pas qualifié au Mondial. Mais on s'y rapproche. Et avec cet état d'esprit-là, je pense qu'on pourrait être capable de réaliser des grandes choses.
Ah. Ça, c'était la joie des Congolais. Hein. Il faut savoir que lors des éliminatoires du Mondial 2026, la RDC a disputé les barrages en Afrique car il faisait partie des meilleurs deuxièmes à l'issue des éliminatoires. La RDC, dans le groupe B, avait terminé deuxième derrière le Sénégal avec 22 points, 7 victoires, 1 match nul contre le Sénégal à domicile, 2 défaites, le Soudan et surtout ce match donc face au Sénégal qui a fait très mal aux Congolais, le Sénégal qui s'est qualifié aisément. 7 victoires et 3 matchs.
Attendez, aisément, il aura fallu cette dernière journée.
Aucune
ils
défaite.
Étaient menés 2-0 par la RDC et ils sont revenus.
3-2, oui.
Le président Tshisekedi de la RDC est descendu au vestiaire après cette qualification et leur a dit mais vous m'avez fait mal après ce match contre le Sénégal. Comment on mène 2-0, on se retrouve être battu 3-2. Ça a été le tournant.
Je disais, c'est un match qui a fait très très mal à la République démocratique du Congo. Et puis derrière, il y a un sélectionneur, Sébastien De Sabre, nommé nouveau sélectionneur de la RDC en août 2022. Il a succédé à l'Argentin Hector Cuper. Depuis l'arrivée de Sébastien De Sabre, la RDC a disputé 18 rencontres, match officiel et amical. Le bilan est très élogieux. 13 victoires, 3 défaites et 2 matchs nuls. Et justement, cet entraîneur a totalement métamorphosé cette équipe qui a impressionné lors de la CAN 2023. Souvenez-vous, de retour à la CAN après avoir raté l'édition 2021 au Cameroun, les Léopards ont surpris plus d'un. La RDC a écarté l'Égypte en 8e de finale, la Guinée en quart de finale. Elle est tombée en demi-finale face à la Côte d'Ivoire, futur vainqueur de la CAN, pays hôte. Avant de perdre le match de classement, c'était face à l'Afrique du Sud.
Voilà, elle nous a rappelé, Nassima Diaout, le parcours de la RDC depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Mais un joueur, Timothée Fayoulou, le gardien de but, Timothée Fayoulou. Et là, De Sabre, il a tenté un coup de poker. Fayoulou, c'est le troisième gardien, même dans son club, il joue pas. Mais il est bon sur les pénaltys, Fayoulou. Et puis, il décide de le faire rentrer. Il fait rentrer Fayoulou. Et Fayoulou, eh bien, il a été décisif. Il a arrêté les pénaltys, alors que personne ne le connaissait. Il a tenté un coup de poker, ça a très bien fonctionné, et il permet à la RDC d'aller disputer le tournoi intercontinental. Depuis, Fayoulou est un héros en République démocratique du Congo. Et on l'espère de tout cœur que la RDC ira au prochain mondial. On va rester maintenant avec une autre compétition. On va aller sur une autre compétition, la Coupe arabe. 2 matchs. Une défaite, un nul et des interrogations. Retour sur le tournoi où les 2 matchs de notre équipe nationale et avant le début de la Coupe arabe, ça débutera dans une dizaine de jours au Qatar, où l'Algérie défendra son titre avec Ali Hamouche.
Deux constats se dégagent des 2 matchs amicaux livrés par la sélection A' face à l'Égypte. Sur le premier match, ponctué par une défaite, 3-2, on relèvera beaucoup d'erreurs défensives, notamment de la part de la charnière centrale Azzi Madani. Des erreurs qui sont à l'origine du premier et du troisième but égyptien. Sur le deuxième match, avec les changements opérés, la défense a tenu bon, avec un axe Rzala Abada qui aura donné satisfaction. Un avis que partage l'ex-international Nasser Bouhiche.
Le point noir, c'était le système défensif qui a été défaillant sur ce match-là. Durant le dernier quart d'heure, l'équipe a baissé de régime, de rythme, de concentration, d'où on a encaissé un deuxième but et on a concédé un troisième but, synonyme de défaite sur ce match-là. Il fallait y remédier, je crois, sur le deuxième match, Majid l'a si bien fait. On a tenu le coup, on n'a pas encaissé de but.
Sur le deuxième match, il est vrai que nous n'avons pas encaissé de but, mais contrairement au premier match, l'attaque composée d'entrée du trio Mzi, Nassim El Ghoul et Islam Slimani est resté muette. Sur le premier match, c'est le trio Berkane, Dermoum et Boulbina qui avaient été alignés. Majid Bougra devra trouver la bonne combinaison offensive pour être plus incisif devant. Pour Nasser Bouhiche, la priorité, c'est de travailler justement cette efficacité devant les buts.
Peut-être qu'on a manqué d'efficacité devant et de réalisme devant le but. On ne les a pas mis au fond, mais vous savez, en football, c'est plus l'efficacité, le réalisme qui fait la différence à l'arrivée. On sort avec un 0-0.
Malgré ses imperfections, Nasser Bouhiche reste positif. Il estime que sur les 2 matchs face à l'Égypte, la sélection A' a montré un contenu qui rassure avant la Coupe arabe FIFA.
Dans l'ensemble, il y a eu beaucoup de satisfaction. On s'est créé, tout d'abord, c'est déjà pas mal. On s'est créé des occasions de but. Les 2 prestations, je crois que c'était des prestations de bonne facture. On a vu beaucoup, beaucoup de bonnes choses.
Un aspect pourrait donner du tracas à Majid Bouguera, c'est la richesse de la large liste dont il dispose. Choisir les 20 joueurs de champ qui composent la liste des 23 qui devra être envoyée aux organisateurs sera le plus gros défi, selon Nasser Bouich, qui n'aimerait pas être à la place de Majid Bouguera.
J'aimerais pas être à la place de Majid parce que il y a une liste très très élargie avec des joueurs de qualité, avec le renfort de Yassine Brahimi, de Mounes. C'est des poids lourds qui vont ramener un plus à cette sélection. Ça sera très 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 délicat pour Majid d'effectuer une liste. Mais après ces deux matchs, que Majid Bouguera a une idée sur un peu la liste finale.
Le groupe retenu pour cette double confrontation face à l'Égypte connaîtra encore des changements pour donner lieu à la liste finale, quand on sait que deux joueurs comme Yassine Brahimi et Ed Mounes n'ont pas pris part à ce stage en Égypte, et quand on voit que certains éléments à l'image de Nassim Elroul et Victor Lekhel ont brillé sur ce stage, et surtout que des joueurs non retenus pour la Coupe d'Afrique des Nations pourraient être récupérés par Majid Bouguera.
L'objectif de Hadek le stage, c'est de finaliser une liste. On a utilisé beaucoup de joueurs, donc on a donné la chance à tout le monde. Et en tant qu'entraîneur et staff, on ne pas avoir de regrets. Mais ça va être compliqué parce que c'est que la Coupe arabe, on n'aura droit qu'à 23. Je n'ai pas compris cette chose-là. Mais voilà, il faudra faire des choix. Inch'Allah que ce soit les bons, mais il y en a beaucoup qui méritent. Ceux qui ne sont pas là, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le niveau, mais c'est que c'est des choix à faire. On a encore quelques jours pour faire une liste de 20 joueurs plus 3 gardiens. Donc ça va être très compliqué et ça va me faire beaucoup, beaucoup de mal de tête parce qu'il y a du choix, surtout offensif.
Après, tout faire pour faire la meilleure liste pour qu'on puisse aller défendre ce titre, Inch'Allah. Il y a encore des ouvertures sur certains postes. À 80%, 70%, 80%, j'ai déjà mon équipe en tête, la liste en tête. On a Brahimi et Ounas. Je ne vais pas vous le cacher que Yassine et Ounas sont dans ma liste pour la Coupe arabe, ça c'est clair. Après cette date FIFA, on doit avoir une réunion pour savoir quels joueurs iront à la CAN ou pas et quels joueurs seraient disponibles pour moi à la Coupe arabe. Et je sais que la plupart d'eux voudront jouer en Coupe arabe.
À J-12 du premier match de la sélection A' en Coupe arabe FIFA 2025, Majid Bouguera préfère se donner encore un temps de réflexion en laissant sa liste ouverte.
On attend la liste, la compétition débutera dans 12 jours. Le compte à rebours a débuté pour notre équipe nationale A' qui ira au Qatar pour défendre le titre remporté, je le rappelle, brillamment. On va enchaîner avec les compétitions de clubs au niveau continental. Premier club à entrer en lice, le Mouloudia d'Alger, qui affronte aujourd'hui à 14h à Kigali, sur terrain neutre, Al Hilal du Soudan, pour le compte de la première journée. L'ambition du Mouloudia d'Alger, avant le début de la compétition, c'est bien évidemment de passer les quarts de finale. Mais on n'en est pas encore là. Faudra déjà engranger des points et sortir de cette phase de poule. Sur ce match, on va retrouver Islam Tazipt.
Auteur d'un début de saison quasi parfait, le Mouloudia d'Alger aborde cet après-midi à Kigali un virage important de sa saison avec cette première journée de la phase de poule de la Ligue des champions africaines qui l'opposera au Soudanais Del Hilal Omdurman. Un match à enjeu pour les Algérois qui nourrissent de grandes ambitions continentales. On écoute à ce propos Roulane Mokwena.
Nous avons conscience du club que nous représentons et nous voulons faire mieux que la saison dernière. Bien sûr, cela commence par la qualification, ce qui signifie qu'il faut aborder chaque match l'un après l'autre. Ce match est très important pour nous. Trois équipes de ce groupe ont atteint les quarts de finale de la Ligue des champions la saison dernière, voire plus loin, et seuls deux peuvent y parvenir cette saison. Nous voulons être parmi les deux.
Pour concrétiser ses ambitions, le doyen devra surmonter un vieux démon, sa difficulté à gagner à l'extérieur. Pour Alexis Guendouz, ce détail ne comptera pas au moment du coup d'envoi.
Je pense que ce n'est pas quelque chose que les joueurs ont conscience et je ne pense pas que c'est quelque chose qui pèse sur les joueurs. On sait qu'en Afrique, il est très difficile de gagner à l'extérieur. Donc je pense que voilà, ce n'est pas le fait historique qui va changer quelque chose. Maintenant, nous, on est prêts à venir chercher un résultat. En tout cas, c'est notre objectif de venir chercher un résultat. On vient ici pour amener des points.
Le contexte, lui, pourrait jouer en faveur du MCA. En effet, Al Hilal Omdurman, bien que nominalement à domicile, est contraint de recevoir ses adversaires à l'extérieur en raison de la guerre civile qui ravage le Soudan depuis avril 2023. Pas de quoi décourager les Soudanais, selon Walid Cherchari, l'analyste vidéo algérien d'Al Hilal.
On n'aura pas l'avantage d'aller le terrain, ni l'avantage du public. Mais cela n'empêche pas qu'on jouera 200% ce match. Et Inch'Allah, on aura ce qu'on est venu chercher ici au Rwanda.
La forme est là, côté MCA. L'équipe entraînée par Mokwena est invaincue depuis le début de saison. Mais le coach sud-africain devra composer avec des absences de poids. Ben Khamassa et Zogarana sont tous deux indisponibles. Un vrai coup dur pour l'animation du milieu de terrain. La bonne nouvelle, c'est le retour de blessure de Bayazid ou encore celui des internationaux. Ghazala et Hlaimia qui étaient avec les A' et Gündüz avec les A. On écoute d'ailleurs le portier international du MCA qui nous parle de l'état d'esprit du groupe avant cette rencontre.
C'est très important pour nous de bien commencer cette compétition. Surtout qu'on sait que voilà, une première victoire, ça nous mettrait tout de suite dans les bonnes dispositions pour la suite de la compétition. On sait qu'on affronte une très bonne équipe, une équipe très expérimentée en Champions League. Mais voilà, on joue à l'extérieur. On va jouer, je pense, avec toutes nos capacités pour aller chercher cette victoire. On sait que pour une première journée de phase de poule, il faut bien commencer. Et ça va passer par un résultat à l'extérieur.
Pour rappel, le MCA et Al Hilal se sont affrontés au même stade de la compétition la saison dernière. Les Mouloudiens s'étaient inclinés à domicile avant d'aller chercher le point de nul à l'extérieur. La question que tous les supporters du Mouloudia se posent, le MCA version Mokwena va-t-il réussir à briser la malédiction des matchs à l'extérieur et à ramener une précieuse victoire de Kigali? Réponse cet après-midi à partir de 14h.
Et bien voilà la réponse à partir de 14h. Le match sera en direct, on vivra la deuxième mi-temps sur les ondes d'Alger Chin 3. Autre équipe dans la plus prestigieuse des compétitions, la JS Kabylie. La compétition africaine pour la JSK, c'est dans l'ADN. Ils sont au Caire pour affronter un géant du continent, le Ahli du Caire. Pour nous en parler, il a été joueur, il a été aujourd'hui les dirigeants, c'est Hakim Eden. Hakim, bonjour. Alors Hakim Eden, bonjour, vous êtes au Caire. Alors est-ce que tout va bien pour la JSK Kabylie? Disons-le, vous êtes au Caire pour un match important, comment ça se passe?
Oui, on est là pour un match très important. On est arrivé hier soir. L'accueil des dirigeants, on a été bien reçus. Maintenant, on est bien installés. Et vous l'avez si bien dit, on va jouer contre un géant d'Afrique. Et c'est déjà bien que la JSK revient au premier plan pour être présente dans les compétitions africaines.
Hakim, peut-être ce qui manque à cette équipe de la JSK, c'est l'expérience de la compétition de très haut niveau.
Oui, c'est pour ça que j'ai dit déjà cette année l'équipe, alhamdoulilah, on est passé au pool et le plus important c'est d'être présent durant les 4-5 prochaines années. C'est comme ça qu'on gagne en expérience. C'est vrai que le club a de l'expérience, a un vécu, mais l'équipe en elle-même, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont commencer. C'est la première fois qu'ils participent à une Champions League. Ça aussi c'est très bien pour eux parce que c'est très motivant de jouer contre une équipe comme l'Ali. C'est très très motivant et j'espère qu'on sera à la hauteur demain.
Alors, vous êtes dans un groupe très relevé. Quel a été le discours de l'entraîneur à la veille de cette rencontre? C'est quoi le discours?
L'entraîneur, il sait ce qu'il veut, où il veut aller. Je pense qu'il a expliqué aux joueurs, il a beaucoup travaillé cette semaine, surtout sur le plan mental, parce que vous savez qu'on a eu beaucoup de joueurs qui sont arrivés à 48 heures, 72 heures, qui étaient en sélection, mais il a insisté, il essaye de tout préparer, de tout prévoir, mais ça reste un match de foot.
C'est vrai que ça reste un... Pourquoi je vous parle du discours de l'entraîneur? Vous l'avez dit, et moi-même je l'ai insisté là-dessus, c'est une équipe des joueurs qui n'ont pas d'expérience continentale. Affronter un géant d'Afrique, est-ce qu'il faut être complètement libéré mentalement? C'est-à-dire jouer sans complexe, avec un peu d'insouciance, je dirais.
Oui, c'est un match en plus, on a l'info qu'il y aura beaucoup de monde demain. Il y aura beaucoup de monde et je pense que jouer au Cairo Stadium, c'est pas donné à n'importe qui contre l'Ali. Je pense que les joueurs aussi sont conscients de la tâche et ça les motive. Moi, je préfère jouer contre un géant d'Afrique que jouer contre une équipe tout juste moyenne.
Cette année, je dirais, pour la JSK également, depuis l'année dernière, ça a été la reconquête de ce public. On l'a vu, que ce soit à Tizi Ouzou, en déplacement également. J'ai vu de nombreux supporters ont fait le déplacement au Caire.
Oui, on a déjà hier quand on est arrivé un peu tard, il y avait quelques supporters qui sont venus nous accueillir à l'aéroport. La JSK maintenant, c'est unique, c'est les supporters croient en ce groupe, croient en cette équipe. Et je pense qu'on sera à la hauteur pour leur donner tout ce qu'ils sont en train, le sacrifice qu'ils font. Parce que quand on voit depuis l'année passée comment ça se passe au stade Hussein Aït Ahmed, je pense que nos supporters, ils ont fait monter la barre très très haute. Et j'espère et je souhaiterais du fond du cœur qu'on sera à la hauteur de cette confiance.
Alors je rappelle, il n'y a pas eu beaucoup de confrontations entre le Ahli et la JS Kabylie. Il y a une victoire pour chacune des deux équipes et il y a deux nuls également. En 2006, la JSK s'était inclinée 2-0. Avant, à Tizi Ouzou, ils avaient fait 2-0 grâce à un doublé de Cheikh Omar Dabou. Et puis il y a eu 2010 également, au Caire, un nul d'un but partout, d'un nul important. Le but avait été inscrit par Tejar. Et puis au match retour à Tizi, victoire également, signé Ziti, 1-0.
Oui, bon, c'est la dernière confrontation, je pense qu'elle était en notre faveur, mais... Ça, c'est que des chiffres, maman.
Ça, c'est l'histoire. Ça, c'est l'histoire pour l'histoire.
C'est des chiffres et l'histoire, bien sûr. Maintenant, c'était demain, c'est un autre match. Et j'espère qu'on sera à la hauteur. Et vous me donnez aussi l'occasion de souhaiter aussi bon courage au club algérien, Mouloudia, qui jouera cet après-midi, et le CRB et l'USMA d'Alger.
Merci Hakim, nous on sera tout cœur avec vous, comme on l'est avec le Mouloudia d'Alger, en espérant le meilleur résultat pour la JSK et le Mouloudia d'Alger qui évolueront à l'extérieur sur cette rencontre et également pour le CRB et l'USMA. Merci encore une fois Hakim.
Merci à vous maman.
Merci et bon vent à la JSK. Voilà donc la JSK, c'est demain, le match sera en direct sur les ondes d'Alger Chaîne 3. À 11h48, on va passer à la Coupe de la Confédération Africaine de Football, c'est... Le CRB et l'USMA d'Alger. Le CRB, on a eu tout à l'heure Benrit, on va parler de l'USMA d'Alger. L'USMA qui affronte San Pedro de Côte d'Ivoire, ça sera dimanche à 20h au stade du 5 juillet. Une équipe de l'USMA qui rêve de renouer avec le succès dans cette compétition africaine qu'elle a déjà gagnée à Rostam El Sherif.
Bonjour, c'était en 2023, je le rappelle. Les Rouges et Noirs qui accueilleront donc la formation ivoirienne de San Pedro ce dimanche. Un rendez-vous important pour les coéquipiers de Houssem Dine Recha. Les USMistes qui restent sur 5 matchs consécutifs sans défaite visent la victoire pour bien entamer la compétition et surtout ne pas laisser échapper des points à domicile. Sur le papier, l'USMA apparaît comme l'équipe la mieux armée pour ce match face aux Ivoiriens du FC San Pedro, actuel co-leader du championnat ivoirien avec la SEC Mimosa. Mais encore faudrait-il le prouver sur le terrain. Hadj Atlan, adjoint et porte-parole de l'USM Alger, nous parle de l'état d'esprit du groupe.
Un bon état d'esprit, avec 5 matchs, toutes compétitions confondues, qu'on enregistre de bons résultats. Je pense que l'USMA revient petit à petit à son meilleur niveau. Notre compétition qui va commencer dimanche, maintenant on s'est préparé pour. Hein. On sait que maintenant que l'USMA commence à s'habituer dans cette compétition, il ne faut pas oublier qu'on a été détenteur ça fait deux saisons auparavant. On va bien commencer la compétition. On sait que qu'on va recevoir l'adversaire ici au stade du 5 juillet. Et c'est très important de commencer avec une victoire qui va nous permettre de bien préparer le match d'après parce que ça va se faire 5 jours après. Hein. Maintenant, j'espère qu'on sera prêt le dimanche à 20h au stade du 5 juillet.
Et pour ce match face au FC San Pedro, l'entraîneur Abdelhak Benchira ne pourra pas compter sur la totalité de l'effectif. Lies Chetti revient de blessure, Meshid a contracté une blessure au niveau des adducteurs et reste incertain pour ce match, mais l'ossature de l'équipe sera présente face à San Pedro, comme le souligne Hadj Atlan.
En complet, non, pardon, on a Chiti qui revient de blessure, il est à court physiquement, et puis on a le jeune Meshid qui l'a contracté une petite blessure au niveau des adducteurs. J'espère que d'ici là, bon, c'est vrai que peut-être qu'ils ne seront pas à 100%, mais ça fait d'ici là, ça sera avec le groupe. L'ossature est prête, tout le monde est prêt, surtout les garçons qui ont participé aux 5 dernières rencontres. Avec le retour de bonnes bottes de sélection et de Draoui, l'équipe a pris. Benzaz Abraham qui a pris juste son suspension. Pratiquement, la majorité des joueurs sont, Inch'Allah, présents dimanche.
En face, la formation ivoirienne de San Pedro vise à confirmer son excellente forme en championnat. 7 victoires, 1 nul, 3 défaites, 16 buts marqués, 9 buts encaissés. Sa prestation lors des deux premiers tours préliminaires en éliminant les Camerounais d'Aigle Royal et les Béninois de Coton FC. L'entraîneur français de San Pedro, âgé de 46 ans, Vincent Espier, construit une partie importante de son identité d'entraîneur en Afrique. En 2012, il rejoint en tant qu'adjoint le stade malien de Bamako, avec lequel il remporte la première division malienne. Entre 2017 et 2022, il est également préparateur physique de l'équipe nationale du Mali, participant à deux Coupes d'Afrique des Nations, ainsi qu'aux qualifications pour la Coupe du Monde 2022. L'entraîneur de San Pedro est fidèle au schéma 4-2-3, avec un 11 qui ne change presque pas, puisque lors des quatre derniers matchs, l'entraîneur Vincent Espier a aligné quasiment le même 11, sauf dans le compartiment défensif, ou en permutant entre les deux défenseurs centraux, Ibrahima Touré et Johan Kapochichi, et l'arrière-gauche, Franck Johan. Dans le style de jeu, le FC San Pedro a le même que l'Académie Football Amadou Diallo, l'adversaire de l'USM Alger, au deuxième tour préliminaire, comme le souligne l'entraîneur adjoint de l'USM Alger, Hadji Adlan.
En général, le football ivoirien est connu quand même. Il n'est pas loin de notre football. On a rencontré, ça fait pas longtemps, un mois de ça, une équipe pareille, je pense que dans le même registre. Et maintenant, on connaît les points forts et les points faibles. On a essayé avec notre jeune Amin, par rapport aux vidéos et tout ce qui concerne les stats de l'adversaire. Ouais, il est quand même. Mais le plus important, c'est que c'est à nous d'imposer notre jeu, notre rythme, pour essayer d'étouffer l'adversaire et ne pas le laisser faire ce qu'il veut avec le ballon et sans ballon.
Deux joueurs à surveiller dimanche du côté du FC San Pedro. Le meilleur buteur, Draman Kamakte, avec 3 buts, et le milieu offensif, Abin Diambe, avec 2 buts. Dimanche, 20h, au stade du 5 juillet, USM Alger, FC San Pedro.
Toujours en direct sur les ondes d'Alger Chaîne 3. Hadji Adlan qui a deux casquettes.
Entraîneur adjoint et porte-parole.
Ben Chicha, lui, il ne parle pas. Il a décidé de ne pas parler. Jusqu'à, je ne sais pas à quel moment il décidera de prendre la parole, mais ce qui est sûr, c'est que nous, on lui lance l'invitation à Ben Chicha, Abdelhak Ben Chicha. Pour venir justement, il serait bon qu'Abdelhak Ben Chicha vienne nous expliquer aujourd'hui ce qu'il fait avec l'USMA d'Alger. Quel est son projet? Parce qu'on lit beaucoup de choses, ça spécule également énormément concernant Abdelhak Ben Chicha, puisque certains l'annoncent comme ayant une deadline, ça sera le mois de janvier, tout dépendra des résultats, même si le championnat va connaître une trêve. 11h54, l'équipe en forme du championnat, qui revient fort. Tout le monde avait enterré cette équipe. Ça y est, tout le monde voyait l'équipe reléguée. Il s'agit du Paradou Athletic Club. Eh bien voilà, réveil du Paradou, changement d'entraîneur, réveil du Paradou. 4 derniers matchs, 4 victoires. Ali Hamouche.
Le Paradou Athletic Club a enchaîné ce jeudi une 4e victoire de suite en championnat, en s'imposant au stade du 20 août 55 devant le Mouloudia d'Albayad 2-0. Grâce à cette belle série, le Paradou quitte provisoirement, pour la première fois depuis l'entame de la saison, la zone de relégation. Du côté du Paradou, on estime qu'un homme est derrière cette remontée au classement. C'est l'entraîneur tunisien Sofiane Hidoussi qui a pris en main l'équipe lors de la 5e journée après le départ de Bilal Dzeri. Et pourtant, les choses avaient mal commencé pour le technicien tunisien. 4 défaites de suite face à Aqbou, le Mouloudia d'Oran, la JS Kabylie et le Mouloudia d'Alger, avant qu'ils ne réussissent à redresser la barre en enchaînant 4 victoires de suite. Lorsque nous avons demandé à Sofiane Hidoussi quel était son secret, il a pouffé de rire avant de nous confier la recette de sa réussite.
Il faut demander aux joueurs, hein, pas à moi. Demandez aux joueurs. Wallah, je t'assure, on travaille. Wallah, c'est le travail, je t'assure. On travaille beaucoup. Tu sais, peut-être le seul club qu'ils entraînent 2 fois par jour. Et on travaille comme une famille. C'est très important. Avec le président, avec l'administration, le manager général, le staff médical, le staff technique. Une famille. Aham Haj, c'est la stabilité. Je suis bien. Après le match avec GSK, dans un mois et demi, et voilà, alhamdoulilah, il reste le mercato. On va faire quelques recrutements, 4 ou 5 recrutements, voilà.
Nous avons pris Sofiane Hidoussi au mot et nous nous sommes approchés de l'un de ses joueurs, l'attaquant Mohamed El Amin Aramdawi, 20 ans et meilleur buteur de l'équipe avec 5 réalisations, afin de connaître ce que leur a apporté Sofiane Hidoussi. Voici sa réponse.
L'entraîneur qui j'ai aidé, l'équipe sur le côté physique, le côté tactique. Chaque match, le côté individuel, beaucoup de buts, même si il a raté des occasions.
l'occasion, c'est ça le foot. Messi a marqué beaucoup d'occasions. Alhamdoulilah, il a marqué le cinquième but. Je signe qu'on bute le championnat, Inch'Allah.
À l'image de Ramdaoui, c'est tout le groupe du Paradou qui retrouve le sourire suite à ce quatrième succès après ceux face à l'ES Mostaganem, l'USM Khenchla et la JS Saoura. Un sourire qu'affichent également les dirigeants, parmi eux le porte-parole du Paradou, Mourad Bounfouf. Pour lui, la réussite du moment est due au fait que Sofiane Hidoussi a cru au projet de la direction.
Le secret, c'est le travail. Donc il fallait croire en l'équipe, croire à nos jeunes, croire à nos académiciens. On savait qu'il nous manquait un déclic. Et le staff technique, Sofiane et son équipe, ils ont apporté beaucoup, ils ont apporté de la rigueur, beaucoup de travail. Ils ont cru dans le projet de l'équipe et dans le projet de la direction. Personne n'aura eu le courage d'aligner cette saison une équipe jeune avec une moyenne d'âge de 19 ans, 20 ans.
Le chemin vers le maintien est encore long pour un Paradou en pleine mutation cette saison.
Mais déjà, ils se sont extirpés de la zone des relégables. Je me rappelle, Bouchouf, on l'avait eu en direct sur les ondes, il disait ça va être très très compliqué cette année. Il a raison de dire, moyenne d'âge, 19, 20 ans, et aujourd'hui, eh bien, ils sont bien partis, et si ça continue comme ça, pour assurer leur maintien. J'avais dit, on lui posera une question. Je veux une réponse rapide, parce qu'on reviendra la semaine prochaine. Mourad Wardi, vous êtes technicien, ça fait longtemps que vous êtes sur le terrain. Vous avez été au niveau des sélections, vous avez été au niveau de la direction technique, collège des entraîneurs. C'est quoi un système? À quoi doit répondre un système de compétition? À quoi?
Ah, il obéit à beaucoup d'exigences. Hein. Exigences financières, exigences infrastructurelles, exigences d'apport humain et quelque part les distances géographiques. Un système de compétition organise un championnat, développe les joueurs, structure le football et assure une progression vers le haut niveau. Pour moi, c'est ça un système de compétition.
En tenant compte de la réalité du pays, bien évidemment.
Bien sûr, bien sûr. On ne peut pas mettre en place un système de compétition sans qu'on connaisse un peu la réalité du pays. Et comme vous le savez, aujourd'hui, nous avons un système de compétition qui se base sur trois grandes zones du football. La zone nord, la zone au plateau et la zone sud. La zone sud, c'est un petit peu le casse-tête actuellement de notre système de championnat. Il faut réfléchir comment remédier
Le système actuel a permis justement l'émergence des clubs du sud-est et sud-ouest. Oui. Il faut le rappeler.
Oui.
Très bien.
Oui. Il faut revoir un petit peu.
On y reviendra. Dernière question, réponse rapide. Un système également doit être discuté au niveau de la base, différents acteurs, les préceptes, tout le monde doit être associé.
La logique des choses veut que oui, effectivement, il y a des gens qui ont une expérience et un capital d'expérience sur qui il faut se reposer. Hein. Je crois jusqu'à l'heure, on fait des choses sans mettre la base. C'est-à-dire sans que la base soit impliquée. Il faut impliquer la base parce que c'est elle qui est sur le terrain.
Merci Mourad Wardi. Voilà, on y reviendra la semaine prochaine. Ce que je regrette, c'est que les entraîneurs du collège des membres du collège des entraîneurs, eux pour le moment ne donnent pas d'avis sur la question. Et en principe, il y a un nouveau système qui devrait voir le jour la saison prochaine, mais qui n'a pas été discuté et qui fait des mécontents. On y reviendra la semaine prochaine. On arrive à la fin de ce Football Magazine. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis bon appétit. Prochain rendez-vous 15h.